Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
All communication is terminated. This year, the inhabitants of Saturn III are about to experience the unthinkable. A nightmare so perfect, it could only have been made by man.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un genre que nous aimons beaucoup, évidemment, la science-fiction, qui revient régulièrement dans notre émission, faire un petit tour. Et nous allons, nous, donc faire un petit tour du côté des dernières sorties liées au genre. On va parler, par exemple, de Saturn III de Stanley Donen, un film qui jouit d'un certain culte, quand même un film de 1980, qui est sorti chez Elephant Film, également chez Elephant Film, Danger Planète Inconnue, un film de Robert Parrish, un film qui date de 1969. On reviendra aussi sur des films plus récents. Alors il y a Donnie Darko, le Director's Cut, qui est sorti il y a quelques semaines chez Carlotta, donc le film de Richard Kenny de 2001. Et puis on parlera également d'un film sorti chez Universal qui s'appelle Upgrade de Liv Vanel. Voilà, et ce sera l'occasion de revenir sur ce très bon film de SF récent. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathieu Gibault et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer SF aujourd'hui, je suis accompagné de deux créatures étranges. Je ne sais pas de quelle planète elles viennent, mais enfin, on va composer avec. Il y a tout d'abord la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Je vais bien sûr parler de Damien Demey. Salut Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également à nos côtés, sans doute le personnage le plus étrange que j'ai croisé dans toute mon existence, un loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, pour le site cultureau.com, qui sévit également dans son émission à l'écoute du cinéma sur une radio concurrente et néanmoins amie, et qui s'appelle Thomas Roland. Et oui, quel est son prénom, quel est son nom? C'est un mystère que la Terre entière cherche à découvrir depuis maintenant de nombreuses années. Salut Thomas!
Salut Jérôme, salut Damien et salut à toutes.
Dans mon introduction, je parlais d'un film en disant qu'il avait acquis une sorte de statut culte, en fait. Alors, peut-être pas que pour des bonnes raisons, d'ailleurs, c'est Saturn III. Film de Stanley Donen, et oui, Stanley Donen, le roi, l'un des rois de la comédie musicale, c'est l'auteur de Chantons sous la pluie, c'est aussi le réalisateur du formidable Charade, hein, qui est un excellent film d'espionnage, voilà, trépidant, un grand classique du genre. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que cet homme avait signé un film tellement éloigné de ses différents univers, hein, et surtout de celui de la comédie musicale, à savoir un film de SF qui s'appelle Saturn III, qui est sorti en 1980. Alors un film avec une distribution limitée, parce qu'il y a surtout trois acteurs. Farrah Fawcett, la drôle de dame, hein, qui était un véritable sexe symbole au moment du film. Il y a également Kirk Douglas qui essaie de relancer sa carrière à l'époque. Et puis, il y a enfin un acteur alors, qui est totalement inconnu à ce moment-là, ou très peu connu, Harvey Keitel, qui avait déjà illuminé Taxi Driver de sa présence dans le rôle du macro de Jodie Foster, par exemple. Acteur vraiment un peu étrange, un peu flippant, même si là, son potentiel étrange n'est pas totalement exploité. D'ailleurs, il paraît qu'il aurait été repost-synchronisé ensuite, voilà, ce qui n'est pas très sympa quand on connaît le talent d'Harvey Keitel. Ce film, en fait, Stanley Donen se retrouve à la barre de ce film, c'est pour des raisons un peu particulières, parce qu'en fait, ce film, à la base, c'est un film de John Barry, et John Barry, c'est pas n'importe qui, c'est un architecte, c'est aussi un grand spécialiste des dessins, de la construction des décors sur de grands films. Hein. C'est lui qui a dessiné les décors de Cléopâtre, par exemple, en 1963. Il a aussi énormément... Il est reconnu pour être un des grands spécialistes aussi du fantastique. Il a travaillé, par exemple, sur Orange Mécanique, La Guerre des Étoiles, Superman, Superman 2. Il décède d'ailleurs prématurément, hein, pendant la mise en place d'un Star Wars. Hein, d'ailleurs, il meurt très jeune. Et c'est lui qui devait réaliser ce film de SF. Et Stanley Donen devait produire. Et en fait, ça ne s'est pas bien passé. Stanley Donen a fini par reprendre le film des mains de John Barry. Donc de ce directeur artistique très, très, très réputé. Alors ça raconte quoi, Saturn 3 ? Eh bien, c'est bien simple. Il y a au début une ambiance un peu stressante. Il y a Harvey Keitel qui usurpe l'identité d'un autre capitaine qui devait aller dans l'espace, amener sur une station à deux savants agronomes, donc Adam et Alex, devaient leur amener du matériel, hein, sur cette station qui est située sur un des satellites de Saturne, parce que c'est un film quand même qui est écolo avant l'heure. Hein, c'est intéressant, quoi. Hein, ça, c'est un des propos intéressants du film. Autre propos intéressant, c'est que ce Benson, donc qui n'est pas le vrai Benson en fait, c'est ce personnage incarné par Harvey Keitel, en fait avait été refusé pour la mission parce qu'instable psychologiquement. Et là, il amène dans cette base, il amène une sorte de robot qui est appelé Hector. Et bien sûr, après, il y a tout un discours sur l'intelligence artificielle. Alors évidemment, 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick était passé par là quand même depuis 1968. Mais quoi qu'il en soit, le film raconte ça. Et évidemment, ça va pas très bien se passer avec ce robot. Et ça va donner un film quand même, Thomas, un film un peu étrange quand même. Hein.
Ah, c'est sûr que c'est beaucoup moins pétillant qu'Arabesque avec Sophia Loren et Gregory Peck. Hein. C'est beaucoup plus sombre. Effectivement, 2001 était passé par là. C'est Saturn 3, c'est un peu HAL 9000, mais qui a des bras. Puis des bras fortiches. Hein. C'est un petit peu gore. Hein, un petit peu de gore. Et, bon, c'est un huis clos plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve que le film, il a une certaine sécheresse, il a une certaine efficacité. Et c'est un film qui, en plus, fait... Bon, ils le disent dans le film, hein, c'est ouvertement référence à la mythologie grecque. Hector, c'était un Troyen qui défendait la ville de Troie. Et puis, quand Achille l'a tué, il a traîné son corps tout autour de la ville de Troie pendant plusieurs jours, sans que le corps soit abîmé, parce qu'une déesse avait pitié d'Hector et l'avait protégé de façon à ce que son corps ne se désagrège pas, ne se décompose pas durant les sévices que lui fait subir encore Achille après sa mort. Donc on retrouve ça, il y a ce fameux robot Hector qui fait un truc similaire dans le film, je ne vais pas en dévoyer plus. C'est un drôle de film, c'est vrai que quand on connaît la carrière de Stanley Donen, ça dénote un petit peu, hein. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus violent. Et c'est un film qui... j'ai pas l'impression que ça se termine bien, moi. Il y a le dernier plan avec la musique utilisée dessus. J'ai l'impression que c'est aussi un discours assez pessimiste sur l'avenir de la planète. Bon, d'ailleurs, le peu qu'ils en disent de l'état de la planète dans le film est significatif que c'est pas le paradis, quoi. Donc moi, c'est un film que j'aime bien. C'est un film que j'aime bien, que j'ai découvert à l'avenir du futur. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un mec qui m'avait dit, un truc de sport, le lendemain de la diffusion du film. Ah ouais, alors le mec, il trouvait le film génial. Hein. Fait, ouais, moi j'ai vu les trois. Hein. J'ai vu Saturne 1, j'ai vu Saturne 2, j'ai vu Saturne 3. Alors dans ces cas-là, la jouissance ultime, c'est de dire oui, tout en sachant que le mec ment, mais que le mec ne sait pas que toi, tu sais qu'il ment. Ça. Et je me souviendrai toujours cette petite anecdote. J'ai vu Saturne 1, j'ai vu Saturne 2, j'ai vu Saturne 3. Ouais. Ça me fait toujours rire.
Ah, t'es pas assez vicelard, parce que moi, je lui aurais raconté des scènes clés de Saturne 1 et 2 pour voir s'il aimait les mêmes scènes que moi. Ça aurait été tellement plus drôle. Voilà, mais bon, c'est pas grave, Thomas. T'es pas assez vicelard. Vous écoutez Culture Prohibée. Pour rebondir sur ce que tu disais, la musique, c'est Elmer Bernstein. Elle est pas mal, la musique, quand même. Elle est assez sympathique. Bon, alors après, je te trouve... on sent que c'est une Madeleine de Proust. Pourtant, je te trouve étonnamment gentil avec le film qui a quand même... c'est quand même un défi. Alors, la copie présentée est superbe. En plus, dans les bonus du DVD et les fonds de film, il y a toutes les scènes manquantes. Parce que le film a été pas mal remonté. Les distributeurs ont enlevé pas mal de trucs. Il était beaucoup plus long à l'origine. Et bon, on voit bien qu'il y a eu des problèmes de production. Les décors sont assez cheap, typiquement d'ailleurs de l'époque. Mais surtout quand ils sortent de la base et tout, on voit bien que là, il y a des problèmes de pognon, quoi. C'est pas très très beau. Le robot, il est un peu ridicule quand même. Mais
il découpe un poignet comme ça, juste en claquant des doigts, quoi.
Il est un peu ridicule quand même.
Ouais, mais bon. Moi, je n'irais pas lui dire. Hein.
Bon, c'est comme Jason Momoa, on ne lui dira pas que tu n'aimes pas Aquaman. Quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, non, je trouve quand même le film a des grands moments de Portnoy quand même. C'est assez sidérant. C'est-à-dire que grâce au bonus qui est présent sur l'édition, on sait par exemple que Kirk Douglas voulait à tout prix une scène où il apparaissait nu. Donc il y a une scène du film où il est tout nu. Alors, il est déjà assez âgé, hein, parce qu'aujourd'hui il est centenaire. Bon, il est en forme, hein, pour son grand âge. Il a encore un corps de jeune homme, quoi. Et il voulait aussi à tout prix que Farrah Fawcett soit nu. Alors elle ne voulait pas. Il l'a menacée. Il paraît qu'il y avait une ambiance assez terrible. Hein. Il l'a menacée. D'ailleurs, il y a une scène où effectivement on aperçoit du coup la poitrine de Farrah Fawcett. Il lui arrache son vêtement. Et il y a aussi des scènes qui ont été enlevées au montage, qui étaient des scènes un peu polissonnes, SM, un peu ridicules en fait, assez marrantes, où en fait ils prennent une drogue à un moment dans le film, et il y avait une suite, il y a une ellipse dans le film, mais ils avaient tourné en fait des scènes où elle revêtait des tenues sexy, très fantasmatiques, enfin bon voilà. Et il y a aussi, t'as pas parlé du personnage du chien.
Mais... Non, que tu veux que j'en dise.
Bah,
je vais pas déflorer le film. Hein.
Ouais, bah, ouais, ouais. Bah bon, bref, en tout cas, il connaît un sort assez rigolo. Enfin, bon, bref, voilà. Et bon, quoi qu'il en soit, ça reste une production assez typique de son époque, où les discours écologiques, philosophiques, politiques avaient une part importante dans le cinéma de SF. Bon, je rappelle hein, quand même. C'est l'époque de Soleil Vert, c'est l'époque. Enfin, c'est voilà. Il y a effectivement, comme le disait Thomas, un discours qui est un peu aujourd'hui le discours des collapsologues, quoi. Hein. Le final, c'est ce qui fait plus que suggérer, quoi. Voilà. Néanmoins, moi, je trouve qu'on est plus sur quelque chose qui tient de la curiosité que du grand film, mais ça reste. En fait, c'est tellement. C'est tellement, comment dire, autre que ça reste pour moi, du coup, un film qui devient quelque part presque indispensable parce qu'il est, le témoin d'une manière dont on faisait des films. Et du coup, il a je ne sais quoi, il a un charme. Pourtant, il y a des vrais moments dans le film où il ne se passe rien. Il y a des moments de plusieurs minutes où il ne se passe rien du tout. C'est assez étonnant. Il ne se passe rien. Oui. Et en plus, la mise en scène ne nous indique pas que le réalisateur veut nous dire quelque chose. Juste, il se passe rien, il faut que ça fasse une heure et demie, quoi. Mais c'est pas grave, ça passe quand même. Mais le film a vraiment des moments étranges, il est vraiment bancal. Mais je sais pas, il a un petit charme, il a un petit je ne sais quoi, qui fait que on reste quand même, on a envie de le regarder jusqu'au bout.
Mais moi, je trouve pas que... Moi, je trouve que le film, il est assez ramasseur lui-même, je trouve qu'il est assez court. Et je trouve pas... Moi, je m'emmerde pas quand je regarde ce film-là, je trouve ça... Je trouve qu'il est... Je trouve qu'il est efficace, mais c'est vrai qu'il se passe pas super grand chose non plus. Il y a pas beaucoup non plus de personnages à tuer. Bon, ils sont que 3 ou 4. Peut pas y avoir énormément de victimes non plus. Mais non, moi je trouve que le film est sympa. Bon après moi les effets spéciaux mal foutus, j'en ai rien à foutre. Hein. Franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Mais j'aime bien ce petit huis clos. Bon, effectivement, c'est une madeleine. Mais moi, je trouve que c'est un film sympathique avec ce petit mélange de gore et de science-fiction et puis de petits discours sur l'intelligence artificielle. Moi, je trouve quand même ça beaucoup mieux que AI. Hein. C'est beaucoup plus sympa. On s'emmerde beaucoup moins. Hein. This is Eurosec Launch Control. Ignition sequence commences. 7, 6, 5, 4,
3, 2... Je vais rester chez Elephant Film avec un film qui a connu lui aussi des difficultés de production avec un réalisateur d'ailleurs dont on vous a parlé il n'y a pas longtemps c'est Robert Parrish. On vous avait parlé de lui pour un film d'aventure, un film d'aventure de 1957 qui s'appelle L'Enfer des Tropiques. On en a parlé dans une émission récente. Et on vous expliquait d'ailleurs que Parrish, pour L'Enfer des Tropiques, son film avait été remonté, tout ça, bon. Et que ça s'était pas bien passé avec les producteurs. Bah là, il se trouve que ça n'a pas bien se passé non plus avec les producteurs. Sauf que là, on a plutôt l'impression que c'est Parrish qui a foutu la merde, quoi, voilà. Plutôt que l'inverse. Le film s'appelle Danger Planète Inconnue. Alors, il y a surtout deux acteurs incroyables dedans. C'est Ian Hendry, qui interprète un certain John Kane. Et il y a Roy Thinnes, et oui, Roy Thinnes, l'homme qui les a vus, David Vincent dans Les Envahisseurs. Le fameux Roy Thinnes, qui est le colonel Glenn Ross. Alors, l'histoire est simple. Hein, c'est une sonde de l'Agence spatiale européenne qui permet de découvrir l'existence d'une planète inconnue dans le système solaire. Stupéfaction au sein de la communauté scientifique qui n'avait jamais envisagé qu'une autre planète tournée autour du Soleil sur la même orbite que la Terre. Alors évidemment, une mission spatiale est envisagée. Mais le coup prohibitif met en péril sa mise en place. Et on va assister donc à un film de SF. Et ce qui est intéressant avec ce film de SF, c'est les deux personnes qui ont écrit le film et qui sont derrière ce film. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est Jerry et Sylvia Anderson. Tout de suite, les amateurs de SF ont les oreilles qui se dressent. Puisque Jerry et Sylvia Anderson c'est un couple de légendes, voilà, dans l'histoire de la SF. C'est eux qui créent la série télévisée Les Sentinelles de l'air, Thunderbirds, voilà, avec ces petites marionnettes animées, tout ça. C'est eux qui vont produire donc une adaptation cinématographique de ces Sentinelles de l'air dans un long métrage qui va s'appeler L'Odyssée du Cosmos. Mais ça va pas très bien marcher, en fait. Tout ce qu'ils font, en fait, cartonne à la télé, mais ne marche pas très bien lorsqu'ils passent au cinéma. Il y a une suite, quand même, qui s'appelle Thunderbird et Lady Penelope. Encore un échec. Et puis, le couple, après, tente le coup à nouveau pour un film de SF avec Danger, Planète Inconnue, où ce coup-ci, ils se disent pas de marionnettes, même si c'est notre spécialité, pas d'animation, pas de marionnettes. On prend des acteurs, on fait. Voilà. Par contre, toujours avec leur science consommée des maquettes, parce qu'ils sont très doués pour les maquettes, pour les décors. Et effectivement, comme disait Thomas dans son intervention pour le film précédent, on voit tout de suite que c'est des maquettes et tout ça, mais c'est pas grave, c'est beau, c'est poétique, c'est vraiment, vraiment bien fait, c'est chouette. Il y a un vrai cachet, il y a une vraie identité visuelle. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, Robert Parrish, il va pas être copain avec eux. Et il va leur pourrir la vie, il va pas tourner le film comme ils veulent et tout. Et du coup, ça donne là aussi, comme Saturne 3, un film bancal, mais qui a plein de qualités, en particulier d'un point de vue visuel. Puis Robert Parrish, c'est pas un manchot. Quand il veut, il est capable de faire des belles choses. Hein, mais bon, quand il veut, quoi, voilà. Quand il s'entend bien avec ses producteurs. Il fait, par exemple, l'aventurier du Rio Grande avec Robert Mitchum. C'est pas mal, quand même, comme film. Là, on est étonné déjà de le retrouver dans un film de SF, qui est en plus un film de SF qui ressemble à un segment un peu de la quatrième dimension, avec un twist final un peu ravageur, comme ça. Et c'est un film, en fait, qui a un côté intéressant, c'est qu'il montre comment les voyages spatiaux peuvent être utilisés de manière politique. C'est un débat qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, c'est assez intéressant. Par contre, c'est Derek Meddings aux effets spéciaux pour le voyage spatial et tout, quand il a lieu, c'est assez génial. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que le film constitue une sorte de patchwork très, très, très étonnant. Il y a plein d'intrigues au début qui sont développées. On ne sait pas si on est dans un drame, si on est dans un film un peu d'espionnage. Il y a une scène, par exemple, il y a toute une partie du film, une histoire d'espionnage avec le grand acteur Herbert Lom. Alors que, et tout à coup, cette problématique, elle est résolue, c'est abandonné. Il y a aussi un côté dramatique qui, tout à coup, est abandonné. Il y a même des questions qui restent sans réponse, parce qu'on sent qu'au niveau de l'intrigue, allez hop, on passe ça, on passe à autre chose. Ça donne un film un peu étrange, et la meilleure partie du film, bien sûr, c'est la dernière partie du film, c'est enfin, la deuxième partie, une fois que la mission se déroule. Et là, c'est vraiment intéressant. Et... Les séquences sont vraiment très belles. La musique de Barry Gray est vraiment chouette. Et c'est le compositeur, par exemple, de la musique de Cosmos 1999. Là aussi, ça va parler aux amateurs de SF. Et ça donne un film, ma foi, tout à fait trépidant et tout à fait intéressant dans sa deuxième partie. Et qui est un film qui jouit là aussi d'un certain culte, puisque c'est un film... qui était relativement méconnu et qui a été redécouvert grâce au cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet, il y a de cela de nombreuses années. Et en fin de compte, le film, avec le temps, se bonifie, et en particulier grâce à son interprétation, et je vous le dis, grâce au travail de Derek Mannings, qui quand même n'est pas n'importe qui, puisqu'il travaillera ensuite, il s'occupera du voyage spatial dans Moonraker, par exemple, le James Bond, de Lewis Gilbert, si ma mémoire est bonne, je crois, et où il sait faire, voilà, ça donne des choses très intéressantes. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale science-fiction.
Quand est-ce que ça va s'arrêter ?
Tu devrais déjà le savoir.
Il y a peu, mon cher Damien, il y a un film qui est ressorti par, enfin qui est sorti chez Carlotta, qui était un montage qui était attendu par pas mal de fans du premier film, Donnie Darko. Alors, le film divise, hein, je sais qu'il divise, il divise au sein de cette rédaction, par exemple. C'est un film un peu étrange, en fait, Donnie Darko. C'est un film qui a vraiment, dans les années 2000, qui a marqué son époque. Et qui est l'histoire, qui se déroule en 1988 en Virginie. Donnie Darko, c'est un adolescent en fait, qui est interprété par Jacques Gyllenhaal, qui trouve là un de ses premiers rôles importants. Il y a aussi Maggie Gyllenhaal, sa sœur d'ailleurs, qui est une excellente actrice aussi, qui joue d'ailleurs sa sœur dans le film. Et lui, c'est un adolescent de 16 ans qui est un peu coincé, quoi, qui est un adolescent très introverti et qui a une amitié quand même avec un lapin géant qui s'appelle Franck. Bon là, c'est que ça va pas bien quand t'as 16 ans. Quand l'ami imaginaire a 16 ans, tu l'as toujours, c'est que ça va pas bien. Il y a un truc qui cloche, voilà. Parce qu'il y a que lui qui peut le voir, il y a que lui qui peut l'entendre. Donc je pars du principe que c'est un ami imaginaire. Ça y est, c'est comme l'ami noir de Nadine Morano. C'est-à-dire, il y a que elle qui le voit, il y a que elle qui le connaît. Et là, c'est pareil. Franck, le lapin géant, il y a que Donnie Darko qui le connaît et qui le voit. Alors, une nuit... Donnie donc est réveillé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de le suivre. Et grâce à son ami imaginaire, il échappe à un accident qui aurait pu lui être fatal, tout simplement que il y a un réacteur d'avion qui s'écrase sur la maison, qui se détache d'un avion qui s'écrase sur la maison. Et son ami imaginaire, donc, on est toujours le lapin géant, lui annonce que la fin du monde est proche. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un film qui suit, un film un peu très influencé par David Lynch, on va être clair, un peu nébuleux quand même, mais qui est un film quand même vraiment envoûtant. Moi, je trouve que tout ce qu'a fait Richard Kelly, c'est souvent loupé, mais c'est toujours intéressant. Un film qui mélange un peu de tout comme ça. Il y a de la SF, il y a de la fin du monde, il y a du... Il y a des numéros dansés aussi. C'est Southland Tales, voilà, qui s'était pris une veste d'ailleurs à Cannes. Et puis après, il va aussi adapter Matheson dans un film un peu étrange qui s'appelle The Box, qui est intéressant tout en étant loupé. C'est le grand drame de Richard Kelly, je crois. Et en fait, du coup, Donnie Darko, c'est vraiment son meilleur film. Et c'est vraiment un film à part. Moi, il m'avait énormément plu quand je l'avais vu lors de sa sortie, que j'avais vu au cinéma. J'avais trouvé ça excellent. Et je m'étais laissé porter par cet univers un peu étrange, cette famille un peu dysfonctionnelle, ce personnage de Donnie Darko vraiment bizarre. Et la bizarrerie me plaisait bien. Et puis il y avait des zones dont la BO aussi est assez extraordinaire. Enfin, ça correspondait à peu près à ce que j'écoutais en musique à l'époque. Et c'est un film qui est un peu générationnel, quoi. Voilà, et qui m'avait bien plu. Et puis là, donc j'ai revu la version Director's Cut qui est sortie. C'est une super édition de Carlotta, comme d'habitude, hein, c'est un ultra collector. Il y a un bouquin qui s'appelle Wake Up Donnie, où il y a le scénario original, il y a une reproduction, il y a des interviews, une très grosse interview de Richard Kelly. Et puis il y a ce Director's Cut. Et ce Director's Cut, qui est intéressant, qui est en fait. Mais qui, en fin de compte, n'est pas vraiment utile pour les fans. Enfin, si, pour les fans, il est utile, j'imagine bien. Mais qui n'est pas... qui m'embête un peu, parce qu'en fait, il cherche à expliciter tout le côté nébuleux du film. Et en fait, je préfère qu'on le filme nébuleux, globalement. Et puis, c'est un director's cut. Parfois, il y a quand même des changements qui sont pas importants. Par exemple, on change de groupe de musique, mais pas le même morceau en fond sonore et tout. Bon, je trouve pas que c'est utile. Par contre, il y a des choses, on a des infos, on apprend par exemple que Donnie Darko prend pas ses médicaments. Donc on peut, dans ce cas-là, penser singulièrement que toute sa famille sait qu'il est atteint d'une sorte de psychose, qu'il y a un truc qui va pas bien. Il y a quelques plans d'ajouter. Mais il y a surtout une volonté d'expliciter le film. Et en fait, je trouve pas que ça le sert forcément. Et moi, je préfère le Donnie Darko, en fait, plus nébuleux, plus étrange, la version originale, qui est le premier film, en fait, celui que j'ai vu en salle lors de sa sortie. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est pas vraiment un director's cut. D'ailleurs, on pouvait comparer, il y a les deux versions dans le coffret. Il y a les deux versions du film. Mais c'est pas vraiment un director's cut en même temps parce que c'est vendu comme un director's cut, mais Richard Kelly dit qu'en fait, les deux cuts lui conviennent. Alors, je trouve ça un peu étrange, mais en même temps, c'est bien à l'image du personnage. Je trouve que c'est un réalisateur qui met beaucoup de choses dans ses films et qui n'arrive pas à leur donner de cohérence, qui n'arrive pas à les mettre bout à bout. Et je trouve que ça fonctionne bien sur Donnie Darko, ça fonctionne moins bien sur ses autres films.
Ben, moi, Donnie Darko, c'est un film que j'avais découvert peut-être un peu trop jeune, donc j'étais vite fait passer dessus. J'avais été charmé par l'atmosphère, parce qu'il s'en dégageait, par tout le mystère. C'est le genre de film qu'on regarde une première fois, généralement, qu'on repart sans avoir rien compris, mais on peut être charmé ou totalement à l'opposé. Et le revoir une deuxième fois permet de comprendre. Voilà, c'est des films qui se font en deux fois. On découvre, puis on comprend, un peu à l'image de 2001, l'Odyssée de l'espace ou de Shining. Et donc, j'ai pu le revoir récemment et il m'a paru plus clair. Donc, c'est peut-être parce que mes souvenirs étaient faussés ou pas suffisamment bons. Mais en tout cas, la nouvelle version me semble un peu plus claire. Il y a toujours un doute sur ce genre de film, au final, qui sortent et qui apparaissent, ne trouvent pas leur public, mais qu'au final se retrouvent avec le temps dans une sorte de légitimité à travers les fans qui se forment autour, tandis que les autres expliquent que non, c'est totalement illégitime cette réflexion. J'aimais bien ce côté un peu perverti au final d'une sorte de Alice au pays des merveilles retransformée, où au lieu d'avoir un petit lapin blanc qui nous explique qu'on est constamment en retard, on a Franck, un lapin noir qui apparaît de temps en temps, vraiment inquiétant et qui finalement se pointe au bon moment, on peut dire ça comme ça. Il y a tout un brassage de réflexions métaphysiques à travers le film pour moi qui en ressort et qui interroge sur tous les rapports relationnels qu'on peut avoir au même âge que Donnie. Et d'ailleurs, un des premiers rôles de Jake Gyllenhaal, qui est mon acteur préféré, et commencer par un film comme ça, je trouve que ça envoie du lourd pour une carrière. Mais oui, il y a une question, il y a vraiment une question à travers la compréhension d'autrui, aussi la question de l'univers qui nous entoure. Se poser la question au final si le monde dans lequel on vit est absurde ou est un monde réel. Il y a beaucoup de questions et comme tu l'as dit, Richard Kelly, c'est quelque chose qui fait. Je pense que, en effet, Donnie Darko est l'expression de ses réflexions la plus aboutie parce que Sauf Un Tale, j'ai beau la revoir vu deux fois, je trouve qu'il est vraiment affreux. Là où Donnie Darko s'en sort, peut-être parce qu'il a une meilleure, même s'il est nébuleux, il a vraiment une sorte d'atmosphère qui permet de contenir l'entièreté de ce qu'il explique, 100% perdre, on est perdu, mais sans finalement nous abandonner dans ce monde.
Ah, déjà, j'ai une question existentielle. Moi, je pense que la grosse question du film, c'est est-ce que ce lapin bleu qui apparaît à Donnie Darko est une référence ou une réminiscence de John Wayne déguisé en lapin bleu dans une émission télévisée américaine?
Mais c'est pas impossible, parce que Richard Kelly, il a une tendance comme ça à faire du gloomy-boulga un peu de tout ce qui lui passe par la tête et à le mettre dans ses films. Parce que c'est vrai que le premier truc qui nous vient à l'idée, c'est Lewis Carroll, mais ça peut être ce lapin bleu, ça peut être un mélange des deux, effectivement.
Pour moi, Richard Kelly, c'est un imposteur. Je déteste Donnie Darko, je me suis ennuyé, je trouve que le film ne dit rien, c'est du film Sundance poseur et prétentieux. Je vais pas en dire plus parce que ce film m'énerve.
Et oui, nous tenons avec Thomas notre père fouettard à nous.
Et oui. Ah, il y a une chanson de Tears for Fears à un moment, c'est génial.
vous écoutez Culture Prohibée.
There would be headlines in the papers. Even the grown-up gangs who ran the betting at the All In Wrestling and the Barrow Boys would hear with respect of how old Misery's house had been destroyed. It was as though this plan had been with him all his life, pondered through the seasons, now in his 15th year, crystallized with the pain of puberty. What is Graham Greene trying to communicate with this passage? Why did the children break into old Misery's house? Joni?
They wanted to rob him.
Joni, if you had actually read the short story, which at a whopping 13 pages would have kept you up all night, you would know that the children find a great deal of money in the mattress, but they burn it. Donnie Darko, perhaps with your recent brush with mass destruction, you can give us your opinion.
Well, they say it right when they flood the house and they tear it to shreds that, like, destruction is a form of creation, so the fact that they burn the money is ironic. They just want to see what happens when they tear the world apart. They want to change things.
May we help you?
Yeah, I just registered and they put me in the wrong English class.
You look like you belong here.
Where do I sit?
Sit next to the boy you think is the cutest. Quiet!
Oh my God.
Better choose.
On va continuer à progresser dans le temps, on va se rapprocher, en plus que se rapprocher, on va parler d'un film de 2018. C'est un film, quasiment un film qui vient à peine de sortir en Blu-ray DVD. Ah ben les autres aussi en même temps. Bon là, c'est vrai, je me mélange des pinceaux. Non, on va parler d'Upgrade de Liv Vanel. Liv Vanel, ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà, mais on va en reparler puisqu'il a travaillé avec James Wan, par exemple. Un réalisateur que je sais, mon ami Damien aime bien James Wan. Je crois que c'est un réalisateur qu'il aime bien. Et son film préféré est Fast and Furious, d'ailleurs, je crois. Je l'embête. Et Liv Vanel, qui a été le coéquipier des débuts de James Wan. Et il a signé en 2018 un film de science-fiction qui s'appelle Upgrade. L'histoire est simple. Hein. Gray Trace vit avec sa femme Asha. Cette dernière travaille pour Cobalt, une entreprise travaillant sur l'amélioration humaine via des ordinateurs. Un soir, Gray et sa femme sont violemment agressés. Asha meurt sous les yeux de son mari. Et paralysé, Gray Trace est approché par Aaron Kinn, un richissime inventeur. Ce dernier lui propose un remède expérimental qui va améliorer son corps et ses facultés. Voilà, et à partir de là, va donc se dérouler ce film de science-fiction intitulé Upgrade.
Je vous explique. Quatre types ont buté ma femme.
Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau ? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné.
Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place.
Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre ?
Seulement vous. Il va nous falloir un plan.
Je gère.
Je n'ai pas l'impression que ce plan soit bien réfléchi.
STEM !
J'ai besoin de permission pour agir en solo.
Permission accordée !
Merci.
STEM, il a un couteau !
J'ai vu, nous en avons un aussi. Vous avez de nouveau la main, Gray. Il a une arme greffée dans le bras.
Tu savais pas que j'étais un ninja ?
Je suis à la pointe de la technologie, je ne suis pas un ninja.
Cette petite puce qui lui est implantée lui permet de retrouver la capacité de se mouvoir, mais comme tu as dit, rajoute des facultés. Enfin, ces facultés sont découplées, sachant que la puce est aussi liée à une petite IA qui parle et ils communiquent ensemble. Et à partir de ce moment, débutent des péripéties sanglantes qui se multiplient pour la simple et bonne raison que Gray est en quête des assassins de sa femme et va donc débuter une enquête pour finalement s'en prendre à eux et obtenir sa vengeance. plus qu'un film d'action, finalement, c'est une réflexion sur les hommes augmentés. C'est un thème dont j'avais déjà parlé dans une critique littéraire à propos de Blime et de d'autres œuvres. On retrouve le thème de transhumanisme. Donc le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Et ici, on n'a pas seulement la puce que Grey a en tant qu'amélioration transhumaine, mais on a aussi certains tueurs qui poursuivent, qui ont ces améliorations, comme un de ses poursuivants qui a un bras en fait qui sert de pistolet. Et du coup, on ne peut pas voir le pistolet en lui-même vu qu'il est intégré à son bras. Ce qui fait qu'on a plusieurs personnages qui sont liés finalement à ce côté transhumanisme. Et une des choses qui est intéressante, c'est que la première scène de violence qui est faite dans le film est finalement l'agression du couple qui mène à la mort de sa femme. Mais la première scène que je considère vraiment violente et choquante, c'est la première fois où Grey va utiliser les capacités de la puce finalement pour se venger du premier tueur de sa femme. Qui est une scène où finalement on se rend compte que avec la puce, c'est un surhumain du combat. C'est, tu passes de Gérard Jugnot à Batman d'un instant à l'autre, ce qui est sur le coup surprenant, crée un décalage assez intéressant, mais au vu de la façon dont la scène se développe, ça devient vraiment très inquiétant. Et à travers ça, je vois un peu un avenir sombre de l'humanité de la part de Wannell, qui au final voit un peu la liaison du transhumanisme entre homme et machine de façon sombre, qui nous donne finalement un petit côté cyberpunk au film, c'est-à-dire un sous-genre de l'ASF qui est souvent très proche de notre réalité, mais qui joue avec la dystopie et de la science-fiction dure, avec des technologies qui sont encore, enfin, qui sont techniquement très proches de nous, qui pourraient voir le jour d'un instant à l'autre, et qui finalement sont utilisées à de mauvais escients. On pourrait considérer que ce n'est pas son tout premier film, vu qu'il a déjà travaillé sur Insidious, notamment qu'il a fait tout seul, mais à différence par rapport à Insidious 3, qu'il a commencé à réaliser tout seul, c'est que les idées de base qui sont posées dans Insidious 3 en fait ont été partagées avec James Wan. Donc même si Wannell fait beaucoup du scénario de Insidious 3, ça a débuté par un échange avec James Wan qui avait déjà fait Insidious. Wannell, qu'on retrouve d'ailleurs en co-réalisation et toujours un peu en co-scénariste, co-réalisateur et toujours acteur des films de James Wan, notamment dans Saw, dans Insidious ou encore dans Conjuring, avant que les deux amis finalement prennent des routes distinctes cinématographiquement. Et en fait, Upgrade est le premier film où c'est vraiment lui tout seul qui fait entièrement le scénario et lui tout seul qui réalise.
Il co-signe Insidious 3 avec James Wan, mais la réalisation, c'est lui. Et oui. Il y a une nette différence entre les deux premiers Insidious, une nette différence de style entre les deux premiers Insidious et Insidious 3, que moi je considère être un bon film. Je me demande même si ce n'est pas le meilleur de la série.
Pour le coup, je serais totalement en désaccord avec toi parce que je considère que le 3 est le moins bon.
Je trouve qu'il a un traitement de l'horreur qui se rapproche un peu d'un traitement tel que le font maintenant des Mike Flanagan, etc., qui, moi, m'intéresse plus. Il y a moins d'effets, etc. Par contre, dans Upgrade, c'est encore un genre différent, il le traite différemment. Upgrade, en fait, c'est un film typique de science-fiction, typique des années 90. Série B, typique des années 90. La texture de l'image, la photographie, et le film, de la façon dont il est mené, dont il est écrit et dont il est réalisé, il est carré, quoi. C'est un petit film carré, très efficace, avec des scènes d'action effectivement très bien mises en boîte. Violent, ouais, enfin pas plus violent que ce qu'on voit maintenant, je trouve, mais non, c'est un film qui parle non seulement du transhumanisme, mais aussi de l'intelligence artificielle.
Avec Gérard Jugnot.
Ah, oui, alors, donc, c'est vrai que Pino, Simple Flic et Batman ne sont pas tout à fait du même côté de la loi. Hein. Mais, effectivement, il y a ce petit côté vengeance dans le film. Mais c'est un film d'enquête, c'est à la fois un film d'enquête, un film de vengeance, un film de SF. Et c'est, en plus, il est particulièrement jouissif. Je veux dire, les scènes d'action sont très bien emballées, il y a du suspense, on est vraiment à fond dedans. Après, c'est un film qui joue beaucoup sur il y a une histoire de voix off, donc ça joue beaucoup avec sur la compréhension. Donc visuellement, au niveau mise en scène de ce côté-là, c'était un peu une faiblesse, quoi. Mais sinon, pour moi, c'est une très bonne surprise, surtout que je sortais d'un mois de purgatoire de non cinéma après avoir vu Scheherazade.
Moi, ce que j'aime beaucoup au final, c'est ce débat entre l'homme et la machine qui nous est donné et qui apporte pour moi une sorte de changement de réflexion dans le film. Ce n'est plus jusqu'à où sommes-nous hommes, mais à partir de quel moment devient-on machine. Et le truc qui est intéressant, c'est que Light Warnell a son prochain film qui est annoncé pour 2020, qui n'est autre que le remake de L'Homme Invisible, et il apporte un peu une idée de l'esthétique d'horreur qu'il a commencé à débuter avec un petit côté upgrade. Parce que pour moi, L'Homme Invisible, c'était forcément le scientifique qui finalement allait tester le produit sur lui, sombrer dans la folie et devenir une menace. Et la façon dont il l'aborde, c'est l'histoire d'un couple où la femme est battue. Elle va finalement réussir à s'échapper, mais il semblerait que... Enfin, malheureusement pour elle, son copain était riche et était suffisamment intelligent pour finalement se faire passer pour mort. Et le notaire va avoir expliqué à la femme qu'il y a un truc très simple, c'est que son mari lui lègue toute sa fortune à condition qu'elle accepte de dire qu'elle est totalement folle. Ce à quoi la femme refuse, et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une femme qui va finalement être attaquée par une menace invisible, qui va vouloir aller demander de l'aide à la police, mais la police ne va pas la croire vu que tout ce qu'elle décrit est quelque chose d'invisible. Et du coup, je suis très impatient de voir ce que Warnell va faire au cours des prochaines années.
Pour moi, les Warnell, c'est un peu fait partie de ces jeunes réalisateurs tels que Jordan Peele, cette nouvelle génération de réalisateurs qui s'impose en faisant des séries B d'horreur, de SF, fantastique, etc. Et ce qui est intéressant aussi dans Upgrade, c'est que c'est un film qu'on peut mettre en exergue, en parallèle avec notre rapport à la technologie actuelle, c'est-à-dire technologie actuelle, j'entends les ordinateurs, les mobiles, les réseaux sociaux, etc. À quel point on est dépendant de ça, et à quel point, jusqu'à quel point finalement ces machines nous contrôlent et nous possèdent.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.